Cube Radio. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
1-2-1-2. OK, c'est bon, on peut y aller.
Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
Sophie Durocher.
Tout un spectacle radiophonique.
Bonjour tout le monde. Vous le savez, comme journaliste, comme animatrice, ben, je passe mon temps dans les nouvelles. Je suis en train de lire le journal ou en train d'écouter la radio ou en train de regarder la télé ou de faire les trois en même temps. Et en général, j'arrive à garder une certaine distance avec les mauvaises nouvelles. Mais des fois, il y a des nouvelles qui nous frappent en plein cœur et ça nous arrête en plein dans notre journée. On pense qu'on est capable de continuer notre journée, mais on doit prendre une pause, brailler, pleurer un bon coup, puis recommencer notre journée. Ben, ça m'est arrivé hier. Je lisais les informations et j'ai vu passer cette histoire absolument d'une tristesse inouïe. Amélie Champagne, qui est la fille du président du groupe Jean Coutu, Alain Champagne, qui a mis fin à ses jours parce qu'elle ne supportait plus de souffrir de la maladie de Lyme. Je voudrais commencer l'émission d'abord en offrant mes plus sincères condoléances à M. Champagne, à la famille, aux proches et aux amis d'Amélie Champagne. Et je veux aussi commencer, comme chaque fois qu'on parle de gens qui mettent fin à leur vie, en vous donnant un numéro. Si vous avez des problèmes, si vous traversez des moments difficiles, vous pouvez trouver de l'aide. Je vous donne le numéro général au Québec. Quand on traverse un mauvais moment, c'est le 1-800-APPE-2LE. Voilà. On va parler de la maladie de Lyme, on va parler de l'impact que ça peut avoir avec quelqu'un qui en souffre. Elle s'appelle Karen Leblanc, elle est directrice générale de l'Association québécoise de la maladie de Lyme. Madame Leblanc, bonjour.
Bonjour, Madame Durocher.
Madame Leblanc, comment vous avez réagi quand vous avez appris le décès très triste d'Amélie Champagne?
Oui, ben c'est sûr que pour moi, ça a été tout un choc. Nous, à la QML, parmi nos membres, c'est notre 5e suicide en 2 ans. Donc, c'est sûr que quand ça touche une jeune fille en plus, c'est d'autant plus désolant à ce moment-là. Donc, c'est sûr que moi aussi, j'ai pleuré quand j'ai su la nouvelle, malheureusement.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens, Madame Leblanc, qui ont eu la même réaction en apprenant ça, en se disant, on ne pensait pas à quel point ça pouvait être souffrant, la maladie de Lyme. Est-ce que vous qui en souffrez, est-ce que vous vous êtes souvent heurté à cette incompréhension-là de la part de la population, oui, en général?
Oui, en fait, la maladie de Lyme est mal connue. Donc, elle est méconnue de la population générale, puis elle est méconnue aussi des médecins, parce que c'est une nouvelle maladie au Québec. Donc, il y a une croyance que la maladie de Lyme est facile à diagnostiquer, puis que aussi se traite facilement, mais c'est plutôt le contraire. C'est une maladie qui passe pas bien les tests sérologiques, donc il y a beaucoup de faux négatif, puis qu'ensuite les personnes souffrent pendant des années puis développent des syndromes chroniques jusqu'à l'invalidité. Tu sais, ça peut aller autant sur les douleurs articulaires, les problèmes neurologiques, puis aussi, c'est ça, plusieurs symptômes débilitants jusqu'à l'invalidité.
Moi, j'aimerais que vous puissiez nous dire, puis je veux pas rentrer trop dans votre intimité, ça vous appartient, mais dites-nous ce que vous avez envie de partager avec la population, avec les gens qui nous écoutent, de ce que vous vivez, ce que c'est pour vous vivre au quotidien avec la maladie de Lyme.
En fait, je peux expliquer un petit peu mon histoire parce que pour l'instant, moi, j'ai eu droit au traitement, là. J'ai réussi à avoir le traitement au Québec, là, ce qui une poignée de personnes ont la chance d'avoir au Québec parce que c'est vraiment quelques personnes qui soignent la maladie de Lyme. Donc, moi, j'ai eu le droit au traitement. Mais c'est sûr que moi, j'ai passé au moins 6 ans à avoir des symptômes multiples puis de la maladie de Lyme, puis à penser à l'invalidité. Donc, jusqu'à temps que j'ai eu un diagnostic de sclérose en plaques, de fibromyalgie. On m'a dit aussi que c'était des troubles psychosomatiques. Donc, j'ai été voir un psychologue. Donc, ça m'a pris plusieurs médecins avant de pouvoir avoir un diagnostic de maladie de Lyme. Puis, quand les traitements sont très difficiles, donc j'ai eu plusieurs mois d'antibiotiques. Donc, là, présentement, ce que je peux dire, c'est que je suis rétablie en grande partie, mais j'ai toujours des périodes un peu plus critiques, donc où ce que je suis moins fonctionnelle.
Est-ce que vous arrivez à travailler, à part votre travail à l'Association québécoise de la maladie de Lyme, est-ce que vous arrivez à avoir un emploi à temps plein?
Ben, en ce moment, c'est à temps plein là, que je suis directrice générale de l'association. Donc, oui, j'ai réussi à avoir un emploi à temps plein, mais c'est sûr qu'il y a des projets de vie que je ne peux pas avoir. Là. Moi, j'allais à l'université en parallèle de mes études, donc ça, j'ai dû choisir de pas le faire. Tout ce qui est sport, je peux pas avoir d'horaire défini. Il faut vraiment que je me consacre juste à mon emploi, puis vivre mon emploi. Puis pour moi, sans doute que c'est impossible d'avoir des enfants parce que je peux pas m'imaginer passer plusieurs nuits à pas dormir. Là.
Êtes-vous sérieuse?
Je dois vous avouer que oui, là, c'est ce qui pourrait me faire rechuter. Donc, c'est un deuil que j'ai eu à faire là, suite à cette maladie-là. Que j'ai, ben, en fait, moi, je me trouve chanceuse là, parce que je réussis à être fonctionnelle. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des choix que je dois faire dans la vie parce que je suis pas à mon 100%. Là.
Donc, le simple fait, parce que bon, c'est sûr, quand on a un jeune enfant, ben moi, je le sais, j'ai passé 2 ans à pas dormir. Donc, quand on a un jeune enfant, on vit avec des nuits blanches. Vous, ce serait quoi l'impact si vous deviez passer 1 ou 2 ou 3 nuits de suite sans dormir?
C'est sûr que je serais non fonctionnelle, je serais étourdie, puis je retrouverais beaucoup de mes symptômes de la maladie de Lyme. Dès que j'ambitionne un petit peu sur mon énergie, là, je le sens que ça revient, là, des gros maux de tête, des migraines, j'ai des problèmes optiques, j'ai des acouphènes, des maux tout ce qui est
digestion
aussi, ça revient vite, là.
Ouais. Vous avez dit tout à l'heure que quand on cherchait ce que vous aviez, on vous a diagnostiqué donc sclérose en plaques, fibromyalgie, aussi un psychosomatique. Autrement dit, vous êtes un petit peu fait dire « c'est dans ta tête, ma belle ».
Oui, en fait, ça arrive à plusieurs personnes qui ont fait cette problématique-là, c'est que les médecins prennent un symptôme au lieu de l'entièreté du symptôme. Des symptômes, puis ils diagnostiquent à partir d'un seul symptôme, mais il faut que les médecins soient formés, puis qu'ils voient l'ensemble du portrait quand une personne a la maladie de Lyme.
Vous savez que Francine Ruel, donc depuis 1 an, a elle aussi la maladie de... Donc vous, vous dites maladie de Lyme, moi je dis maladie de Lyme,
de Lyme, ouais.
Mais vous connaissez ça mieux que moi. Alors c'est quoi la bonne façon de le prononcer?
C'est bien maladie de Lyme.
C'est maladie de Lyme. D'accord. Donc, Francine Ruel, donc, a parlé à nos collègues de TVA Nouvelle et a dit que c'est absolument, effrayant, évidemment, ce qui s'est passé, mais elle dit une phrase très importante. Elle dit, il faudrait qu'il y ait des médecins qui croient les patients qui en sont atteints. Habituellement, moi, si je vais voir mon médecin puis que je lui décris, j'ai des douleurs absolument atroces puis que c'est, mettons, relié à un cancer ou relié à quelque chose, ben, je vais être prise au sérieux. Pourquoi la maladie de Lyme, ça n'est pas pris au sérieux?
Ben, en fait, c'est parce que c'est une maladie qui est méconnue des médecins. Là, je pense pas que ce soit une non-volonté des médecins d'y croire, là, mais c'est qu'elle est méconnue. Puis, que, étant donné que c'est multisystémique, c'est dur d'avoir un portrait global. Donc, les médecins vont nous envoyer chez des spécialistes. Donc, si on m'envoie voir un neurologue pour des problèmes neurologiques, par exemple, ben, il ne regardera pas l'entièreté des symptômes, comme par exemple les douleurs arthritiques. Donc, c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup de diagnostics qui sont faussés.
Madame Leblanc, je vais vous poser une question très délicate et je vais vraiment mettre des gants blancs, je vais marcher sur des œufs, je vais faire très attention à ma formulation. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y a eu 5 suicides de gens qui avaient la maladie de Lyme au cours des derniers mois, dont justement l'ancienne présidente de l'association. Est-ce que vous, ça vous a traversé l'esprit? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit « ben la souffrance est juste trop grande, je m'en vais ».
En fait, c'est une idée qui vient, on a fait un petit sondage là, parmi notre communauté, c'est une idée qui vient à 75% des personnes qui souffrent de la maladie de Lyme. Puis, personnellement, c'est sûr que des idées noires, ça m'est passé par la tête, surtout quand j'étais en errance médicale, quand j'avais pas de réponse. Donc, c'est sûr que je voyais mon cas s'aggraver, d'avoir de plus en plus de problèmes. Puis, pour moi, c'était incompréhensible qu'on me laisse comme ça. Là. Je me souviens que mes proches m'avaient dit « Ah, tu vas voir, dans 1 an, ça va être réglé. » Puis 1 an plus tard, j'étais avec les mêmes questions puis j'avais pas de solution. Donc, c'est sûr que quand on se retrouve avec pas de solution puis pas d'espoir, c'est sûr qu'il y a des idées noires qui peuvent nous venir en tête.
Qu'est-ce qui vous a rattaché à la vie, Mme Leblanc?
C'est difficile à dire, là. J'ai tout simplement essayé de continuer mes projets, puis j'ai lu beaucoup sur les maladies, puis j'ai cherché de l'aide, là. À ce moment-là, c'est plutôt ça qui m'a tenue à la vie, là. Donc, espoir de guérir un jour.
Espoir de guérir un jour, c'est vraiment sur cette note d'espoir-là qu'on va vous laisser. Merci beaucoup. Je sais que c'est pas facile de venir parler de ce dossier-là dans les circonstances que l'on sait. Merci beaucoup, Karen Leblanc.
Merci.
Et bon courage à vous et à toutes les personnes qui souffrent de la maladie de Lyme, qui sont pas prises au sérieux par le système, qui ont de la difficulté à avoir un diagnostic. Accrochez-vous. Et je rappelle encore une fois le numéro 1-866-APPEL. Il y a des gens qui sont là pour vous écouter et pour vous aider. Merci beaucoup, Madame Leblanc. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'Association québécoise de la maladie de Lyme.
Sophie Durocher.
Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Culture, tendance et société. Steve Fortin.
Bonjour Steve, t'as envie de nous parler de ce que t'appelles la grand-messe Guya Lepage dimanche, à Tout le monde en parle, donc il va recevoir les 5 chefs de parti. Tu te poses la question, est-ce que c'est le bon endroit, parce que c'est plus une émission de variété, une émission culturelle.
Ouais.
Pourquoi on parlerait pas de politique à Tout le monde en parle?
On peut parler de politique, toutefois c'était pas au programme, puis vous savez, les gens de Tout le monde en parle peuvent inviter qui ils veulent. Dans les années précédentes, quand il y a eu des élections, des fois on se disait, bon, voilà, un tel chef a été invité, un autre n'a pas été invité, ça créait de la controverse. Là, cette fois-ci, l'équipe de Guillaume Lepage décide, parfait, on les invite tous les 5 à 24 heures du vote. Moi, ce que j'aimerais apporter à ce débat-là, premièrement, j'ai hâte de voir
C'est pas vraiment 24 heures du vote? Parce que ça va être... Est-ce que c'est ce dimanche-ci ou le dimanche d'après?
Dimanche d'après, si j'ai bien compris.
Oui, le dimanche d'après. Ah bon, d'accord. Ben, excusez-moi, c'est mon erreur. Je pensais que c'était ce dimanche-ci.
Oui, et puis, là où j'ai tiqué un petit peu, c'est que j'en ai parlé avec un ami à moi, le PDG d'une des firmes les plus crédibles de sondage au Canada, Frank Graves. J'ai envoyé la question, je lui ai dit, au Canada, parce que lui, il étudie ces choses-là, j'ai dit, au Canada, puis au Québec, si tu as les données... Combien de personnes décident de leur vote dans les 24 dernières heures ou comme on dit dans l'isoloir? Je sais qu'il y a une étude du RN en France qui disait pour les 3 dernières élections présidentielles, c'est au moins 10% des électeurs qui choisissent dans l'isoloir, imagine. Et Frank Graves me dit qu'au Canada, selon les données qu'il avait, c'était à peu près la même proportion. Imaginons quand on sait le pouvoir qu'a cette émission-là, c'est pour ça que je dis grand-messe. On le sait, après la vague orange de Jack Layton, hein, le grand succès d'estime que cela avait provoqué. Mm-hmm. Imaginons qu'un des chefs trébuche, mais solide, un ou des chefs, à 24 heures du vote, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui font leur choix dans l'isoloir, ça pourrait avoir un résultat beaucoup plus important dans des comtés qui vont se jouer des fois à des luttes à 3-4 parties. Ça pourrait avoir un effet très, très important et je crois qu'il faut quand même le mentionner.
Écoute, je suis vraiment désolée, Steve, de te faire ça, mais pendant que je te parle, je suis en train de vérifier sur Internet et c'est pas le dimanche, le 2 octobre, c'est ce dimanche-ci.
OK.
Fait que c'est pas à 24 heures du vote, c'est une semaine avant le vote.
OK, ben tant mieux, parce que quand j'avais posé la question, permets-moi d'ailleurs de mentionner aussi que si on remonte à une semaine avant le vote, c'est 40% des électeurs.
Ah ouais.
Donc, il y a 40% des électeurs qui font partie du camp des gens qui sont prêts à changer de camp, et j'ai les données devant moi. Donc je me dis, admettons le forum, admettons qu'on décide, parce qu'il y avait il y a le débat des chefs qui va avoir lieu ce soir. MC Gilles sera la personne qui fera office de fou du roi pour cette journée-là. Donc, j'ai hâte de voir quel effet ça va avoir quand même sur la campagne et je tiens quand même à dire que le format d'avoir les 5 chefs, combien de temps on va donner ce segment-là, est-ce que ça va être un segment combiné, c'est-à-dire habituellement, là, c'est des segments d'environ 13 à 14 minutes là, dans le format « Tout le monde en parle », est-ce qu'on va augmenter le nombre de temps, comment on va modérer tout ça, est-ce qu'il y aura des face-à-face, j'ai hâte de voir comment on va gérer ça parce que Guillaume Lepage, Moi, je l'aime bien pour mener des entrevues. Je trouve qu'il est bon. Il est toujours très bien préparé. Mais là, si jamais ça devenait cacophonique, quel effet ça pourrait avoir ou quel intérêt ça pourrait avoir?
Ouais, je comprends ton point. En même temps, tu vois, moi, je me dis, les gens ont envie de voir les politiciens dans toutes sortes de circonstances différentes, oui, qui sont plus révélatrices les unes que les autres. Par exemple, au face-à-face, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que François Legault était très taciturne, il avait l'air grognon. Est-ce que, justement, dans un autre contexte, tout le monde en parle, où il y a du vin, où, tu sais, il y a un fou du roi qui est là pour faire rigoler les gens, on va peut-être découvrir une autre facette aussi de nos personnalités publiques.
J'espère qu'on va sortir le vin de bonheur, puis que ça va pouvoir justement délier les gens un peu, parce que ce forum-là, c'est pas que je ne l'aime pas, c'est un forum intéressant, c'est une tribune intéressante. Et espérons justement que un François Legault sera plus à l'aise dans ce format-là, parce que on le sait, ce soir, ce sera le débat à Radio-Canada. Puis, moi, j'ai entendu plus de mise en garde concernant François Legault sur sa moue, sur les espèces de mimiques qu'il peut faire que par rapport au programme, jusqu'à certains égards. Et puis, ça je trouve, ouais, ça quand même un peu dommage. Dans le format de Tout le monde en parle, j'espère qu'on ça sera un petit peu plus relâché, puis que la présence de MC Gilles, par exemple, va permettre là de un petit peu là, de désamorcer là, le sérieux qu'il y aurait dans un débat conventionnel.
Mais ça, tu touches à un point que je trouve extrêmement important. C'est que, bien sûr, on vit dans un monde d'images, on se le cachera pas, mais c'est vrai que c'est très frustrant quand on analyse un débat où on devrait normalement s'intéresser aux idées, s'intéresser au programme, puis que ce qui en ressort, c'est « Ah, oh, mon Dieu, un tel, il transpirait, l'autre, regarde, ses cheveux étaient bizarres. » Tu sais, on a beaucoup parlé quand même du fait que François Legault portait des lunettes au débat. Est-ce que c'est vraiment... Qu'est-ce que ça change qu'il porte des lunettes? Est-ce qu'il va être la meilleure personne pour mener les destinées du Québec? C'est ça qu'on veut savoir.
Ben, non seulement c'est ça qu'on veut savoir, mais dans un débat conventionnel comme ce soir, la tribune, on dirait que c'est fait pour qu'on ne manque absolument rien, que chaque angle soit couvert. J'apprenais ce matin que dans la nouvelle tour, mais dans la nouvelle maison de Radio-Canada, on expliquait comment étaient placées les 12 caméras et tout ça. Je veux dire, il y a personne qui peut échapper une moue, il y a personne qui peut échapper peut-être un regard ou tu sais, là, tout va être là. Puis je veux dire, pour les chefs de parti et la chef de parti, je veux dire, il y a quelque chose là-dedans qui est un peu cruel, parce que et là on a focusé beaucoup sur de François Legault, mais ils ont tous les chefs ou même Dominique Anglade, je veux dire, tout le monde à un moment donné peut avoir un regard où ça, je trouve ça quand même un peu cruel. Et espérons aussi que dans le format Tout le monde en parle, j'espère qu'on va sortir des thèmes qu'on aborde tout le temps. On est à Tout le monde en parle. Pourquoi ne pas faire intervenir, pour une fois, un segment complet que sur la culture? Moi, j'aimerais que, justement, il y a MC Gilles qui sera là. Pourquoi? J'espère que quelqu'un va faire le tour puis qu'on arrive. Voilà, on fait poser une question par un artiste. Ça, j'aimerais beaucoup qu'on change et qu'on ne soit pas dans les mêmes thématiques qu'on voit tout le temps, qu'on parle d'immigration, non, qu'on sorte de ça puis qu'on profite de cette tribune-là pour peut-être même prendre les chefs de parti à rebrousse-poil sur un sujet complètement le champ gauche. J'aimerais ça voir aussi comment ils vont se débrouiller dans un contexte comme celui-là.
Tu vois, c'est très intéressant parce que quand mon fils est revenu de l'école hier, il nous a raconté, Richard et moi, que en classe, je sais plus dans quel cours c'était, je pense c'est histoire du Québec, le professeur leur a fait écouter des extraits du forum jeunesse, hein, qui était d'ailleurs animé par notre collègue Philippe Vincent Foisy, et que c'était super important pour les jeunes Québécois de voir justement des extraits de ce forum-là, qui était vraiment pour que les chefs de parti puissent s'adresser aux jeunes pour des préoccupations qui intéressent les jeunes. Et ce que mon fils a retenu, qui trouvait assez rigolo, c'est qu'à un moment donné, on leur a posé la question aux chefs de parti, on leur a demandé pour ou contre la nana sur la pizza. Mais c'est une question qui est complètement champ gauche, mais tu le sais pas, des fois, c'est peut-être là-dedans aussi que le chef de parti va se révéler, puis qu'il va faire une réponse qui va accrocher les jeunes ou qui va accrocher le public.
Oui, et justement, il y a des chefs de parti qui ont été capables d'exploiter ça, d'exploiter un côté un petit peu plus givré que le côté sérieux. Pendant les élections fédérales, j'ai beaucoup aimé, par exemple, l'utilisation de Jack Meeting, réseau TikTok. Il était excellent. On l'a vu sur un longboard.
C'est très vrai.
Puis j'aime ça. Et le forum de Tout le monde en parle va se prêter à ça. Pourquoi ne pas le faire? Et il y a des chefs qui vont être probablement plus à l'aise que ça, mais j'aimerais ça entendre François Legault, justement, être pris par surprise par une question comme celle-là. Pourquoi pas? On verra comment... on va voir certainement un sourire, parce que ceux qui ont déjà rencontré ou qui connaissent un petit peu François Legault, c'est pas l'homme complètement taciturne qu'on voit.
Ouais, Jacques Meeting qui faisait du TikTok, t'as tout à fait raison de le rappeler. Et pour rester avec le NPD, il faut se rappeler quand même que beaucoup de gens ont dit, beaucoup d'analystes ont dit que c'était justement son apparition à Tout le monde en parle que feu Jack Layton avait amorcé, disons, la fameuse vague orange à l'époque.
Ah, non seulement il l'avait amorcé, ça a été le combustible qui a fait en sorte que cette vague-là, je veux dire, c'est ça, c'était la vague, c'était son apparition qui a donné là, tout l'envol à ça. Cette tribune-là peut avoir cet effet-là parce que, tu sais, généralement, on dit c'est quoi, c'est environ là, entre 900 à 900 000 puis 1,2, 1,3 millions les codes d'écoute, là, si je me fie à ce qu'on lit par rapport à cette émission-là. Mais quand il y a un moment marquant à cette émission-là, à cause des réseaux sociaux, c'est clair qu'à un moment donné, on va faire des clips. Puis l'équipe de Tout le monde en parle, comme n'importe quel des réseaux, puis on le fait aussi, bien entendu, à Québécois, dans toutes les plateformes. Quand tu as un clip, à un moment donné, ça se lance sur les réseaux sociaux puis ça devient viral. Là, on va aller chercher dans toutes les catégories, si on veut, là, de la population, parce que les jeunes vont voir ça, on va catapulter ça sur toutes les plateformes. Et à ce moment-là, s'il y a un moment vraiment important qui se passe, c'est pas mal plus par Tout le monde en parle qu'on va réussir à faire une clip n'importe quel parti politique ou même dans les salles médias que dans un débat, si on veut, conventionnel. La clip de Gabriel Nadeau-Dubois qui dit le mot en haine dans le face-à-face TVA, je veux dire, il y avait quelque chose de bien à faire avec ça, mais c'était quand même un peu long, il fallait tronquer et tout ça. Puis ça a donné lieu à des interprétations qui parfois étaient complètement erronées. Moi, j'ai lu dans le CTV, à CTV, j'ai partagé ça aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est incroyable qu'on fasse porter à Pierre Bruneau en grande partie dans un article dans ce média-là, puis un peu à Paul Saint-Pierre Plamondon, le fait que, oh, pauvre Gabriel Nadeau-Dubois a été forcé, on l'a pressé, là, tu sais. Je veux dire, come on, si c'était pas ça, faut regarder l'extrait, mais c'est quand même long à faire jouer, tu sais.
Oui, mais c'est ça. Mais normalement, quand t'es journaliste, t'es censé écouter l'extrait au complet. Mais j'en ai une bonne pour toi. J'en ai parlé avec Benoît Dutrisac un petit peu plus tôt aujourd'hui, mais j'en ai une bonne pour toi. Il y a sur le site de CBC, donc le pendant anglais de le côté anglais de Radio-Canada, il y a un journaliste qui est allé interviewer différentes personnes pour savoir comment ils avaient réagi, ces gens-là, à cet échange entre Paul Saint-Pierre Plamondon et Gabriel Nadeau-Dubois. Et veut pas, il est obligé dans son article de citer une phrase quand Gabriel Nadeau-Dubois a donné le titre du livre « Nègre blanc d'Amérique ». Eh bien, quand tu vas sur le site de CBC, il y a un avertissement. Il y a un avertissement. C'est la première fois dans ma carrière de journaliste que je vois un texte sur un site de nouvelles où on avertit le lecteur. Attention, ça pourrait vous déranger ce que vous allez lire. C'est fou, je te vois hocher de la tête, tu n'en reviens pas. On dit... Et par contre, il ne le cite pas au complet. Donc c'est N, 5 petits points, blanc d'Amérique. Mais quand même, c'est notre société d'État et ils mettent le baillon sur un politicien qui a tenu des propos à TVA. C'est fou.
Ah, ça me sidère. C'était la même chose en passant. Je suis content que tu le dises comme ça parce que c'est exactement comme ça qu'on l'a écrit dans l'article de CTV. C'était N avec les trois petits points. Puis on fait... Là, il y a quelque chose ici qui est en train de se passer puis on l'a vu... On l'a vu dans plusieurs articles récemment. Entre la CBC puis Radio-Canada, il y avait déjà un clivage qui est existait. Mais sur cette question-là, il y a un fossé, il y a
c'est
un
deux galaxies. C'est même plus deux solitudes. C'est deux galaxies. On n'est même pas dans le même univers.
Non. Puis ça, à un moment donné, c'est, je suis content qu'on commence à traiter de ça parce que on ne parle même plus, on dirait, la même langue. On ne parle pas la même langue, mais on n'est plus dans le même contexte, on dirait, là, sociétal. C'est incroyable quand même qu'on soit pas capable de publier un article à la CBC sans mettre ce qu'on appelle un trauma avertissement maintenant. Mais là, moi, je débarque complètement parce que si on joue à ce jeu-là, on en a déjà parlé, toi et moi, on va faire quoi quand, je sais pas, mais on va être dans un autre contexte, puis il faudra citer le titre du livre fort du seul académicien québécois ou canadien, on le place ça comme on voudra. Là, maintenant, on va mettre un trauma avertissement à toutes les fois qu'on va citer ça. J'ai dans ma bibliothèque, moi, plusieurs livres qui utilisent le mot « nègre ». Puis, je vais te le dire tout de suite, on a demandé à Paul Morissette, l'ancien attaché politique de Jean-Alfred, le premier député noir de l'histoire de l'Assemblée nationale du Québec, on lui a demandé d'écrire une bibliographie. Puis, on va, je veux dire, il y a des gens à cette maison d'édition-là qui se sont posé la question. On fait, mais voyons, on peut pas. Je veux dire, moi, je l'ai connu, c'est un ami personnel, Jean-Alfred, et il est plus vivant aujourd'hui, mais s'il avait été ici, je le connais assez, puis je l'ai connu pendant tellement d'années, ça, c'est une des personnes qui aurait été, mais complètement renversée par la façon dont on se conduit dans ce débat-là, et certainement à l'Université d'Ottawa, ça, je peux te le dire.
Ouais. Alors, j'en ai une autre bonne pour toi, décidément, c'est la journée où j'en ai des bonnes pour toi. Isabelle Massé a écrit il y a quelques années de ça la biographie de Normand Brathwaite. Le titre de la biographie de Normand Brathwaite, Isabelle Massé est noire et Normand Brathwaite est noir. Le titre de la biographie de Normand Brathwaite, c'est Normand Brathwaite, deux points, comment travailler comme un nègre sans se fatiguer. OK?
Oui.
Est-ce que aujourd'hui, elle écrirait la biographie de Normand avec ce titre-là? La réponse est évidemment non. Mais quand tu vas voir sur le compte Twitter d'Isabelle Massé, elle met simplement auteur de la biographie de Normand Brathwaite. Donc, je veux dire, moi, si j'ai écrit la biographie de Jean-Pierre Ferland, ben, je serais pas gênée de mettre le titre de la biographie de Jean-Pierre Ferland. Ça s'appelle « Hey, boule de gomme, serais-tu devenu un homme? » Mais elle-même ne cite même pas le titre de son livre. Alors, faudrait voir, est-ce que c'est par rectitude politique? Je sais pas, mais c'est quand même particulier que même quelques années après, le titre du livre de Normand Brathwaite ne pourrait pas être ça aujourd'hui.
C'est drôle parce que dans les dernières années, j'imagine, là, les quelques dernières années, les tenants de cette espèce de rectitude-là qui s'attaque à des mots, ils ont gagné. Ils ont gagné.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Je me pose la question. À chaque fois que je vais dire ce mot-là, il y a une petite cloche qui sonne dans ma tête. Et on se souvient, moi, je me souviens d'une entrevue assez récente avec Daniel Ferrière quand il avait dit « Le mot nègre, il va dans n'importe quelle bouche. » Mais il avait aussi ajouté que celui qui le mentionne doit en porter la responsabilité. Mm-hmm. Puis j'avais trouvé ça génial parce que moi, j'ai aucun problème à citer le titre d'un livre et tout ça. Puis je suis conscient de ce que je fais. Je ne me sens pas mal quand je cite ou quand je l'utilise dans le cadre, dans un cadre comme celui qu'on fait présentement. Et c'est là qu'arrive l'espèce de distinction entre la façon de le mentionner en anglais ou en français, c'est pas tout à fait pareil. Puis les contextes,
pas du tout, du tout pareil.
Ouais. Tout on en prenait plus compte.
Ouais. Merci beaucoup, Steve. À très bientôt.
Oui, merci.
Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre,
Sophie Durocher.
C'est tout en anglais.
Sophie Durocher.
C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme.
Le Québécois moyen était...
Guy Nantel.
Quelqu'un qui subissait et qui se disait « Je ferme ma gueule, ben, je veux pas perdre ma job. »
La rencontre.
Cet asservissement, cette servitude volontaire.
C'est quelqu'un qui va dire, par exemple, « Moi, je suis allé à l'urgence, là, j'ai attendu 6 heures, OK? »
La rencontre. Nantel. Durocher.
Guy, il faut absolument qu'on parle du décès de Mahsa Amini, cette jeune femme iranienne, 22 ans. Elle a été arrêtée par la police des mœurs en Iran parce qu'elle ne portait pas bien son voile. Elle est morte des suites de son arrestation. Et depuis, ben, c'est l'ébullition en Iran. C'est rempli de femmes dans les rues qui enlèvent leur voile, qui le brûlent. Comment se fait-il que nos féministes québécoises sont pas en train de créer un hashtag en appui à Mahsa Amini?
On voit rien passer là-dessus, hein? Rien du tout. Et non. C'est ça que j'en reviens juste pas de voir ça. Tu sais, moi, je me souviens exactement un an, presque jour pour jour, quand j'avais sorti une vidéo là pour le lancement du livre offensant. Une des cinq vidéos que j'avais faites, c'était sur justement la culture du viol, puis bon, la masculinité toxique et tout ça. Puis moi, j'avais juste dit que, écoute, je trouve que ces termes-là sont un peu galvaudés, puis ça amenait juste le monde à de la polarisation. Écoute, j'ai reçu des milliers de messages haineux, là. Tu sais, ils sont tous prêts pour la guerre. Il y en a même qui voulaient faire des manifestations anti-Nantel dans la rue. Mais ils sont où? Ils sont où quand ces affaires-là arrivent? Pour des vrais combats féministes que des femmes comme Thérèse Cassegrain auraient menées, ils sont pas là.
Tu as tout à fait raison, puis je trouve que tu fais un excellent parallèle, Guy Nantel, parce que quand on parle de masculinité toxique, si on aime ce terme-là, moi, je suis comme toi, j'ai énormément de réticence avec ce terme-là. Premièrement, parce que j'ai un fils qui a 14 ans, puis je suis tannée que chaque fois qu'on utilise le mot masculinité, il y a le mot toxique qui soit associé. Ben, je me dis dans quel monde il grandit, lui, que chaque fois qu'on parle du fait d'être un homme, c'est associé à quelque chose de négatif. Mais mettons qu'on admet ce terme-là. Y a-tu un exemple de masculinité toxique plus probant qu'un mollah qui dit on va torturer, emprisonner, tuer des femmes si elles ne portent pas un chiffon comme il faut sur la tête?
Ben, c'est raison de plus pour dire les mêmes personnes, là, si vous entendez cette chronique-là, qu'est-ce que vous attendez pour réagir? Quand est-ce que vous allez en faire des manifestations? Arrêtez de vous attarder aux niaiseries puis aux jeux de sémantique, puis allez-y avec les faits concrets là, des gens, des femmes qui sont assassinées. Puis c'est pas la seule, évidemment. Il y a les manifestations dont tu parlais dans les rues, puis il y a
oui.
300 morts en passant. Hein. Dans les journaux ici, là, on parle de 15, 17, des fois 3 morts. Ça serait au-dessus de 300 morts en ce moment, selon certaines ONG. Alors, c'est des femmes, pour la plupart, qui se font tirer dessus en ce moment dans la rue avec des fusées à plomb, là, un peu comme la chasse aux canards, sinon avec des billes de métal. Évidemment, des coups de matraque à la tête. 300 morts. Et là, je lisais le papier de Rima El-Khoury ce matin dans la presse. Évidemment, là, quand ces affaires-là arrivent, là, il y a toujours le ton de la nuance avec le petit ton mielleux. Là. Elle s'appelait Mahsa. Elle avait 22 ans. Elle n'en aura jamais 23. Pourquoi tu penses qu'elle n'aura jamais 23? Parce que ultimement, nos gouvernements, là, ils font rien. Ils font même l'apologie, bien souvent, de ces symboles de domination-là des hommes sur des femmes dans des régimes totalitaires. Fait que ces régimes-là, ils agissent en toute impunité. Et tout ça, ben, nos gouvernements ne réagissent pas parce qu'il y a justement des médias qui, dans leur trame de fond, font toujours la promotion de ces affaires-là. Alors là, tu peux bien, après ça, avoir une espèce de ton comme bien concerné. C'est la même gang là, qui, quand il y a les attentats de Charlie Hebdo, là, que tu vois qui disent « Oui, on peut être Charlie, mais en même temps considérer qu'ils ont un peu couru après. » Non, non, c'est un ou c'est l'autre. Tu peux pas avoir les deux en même temps. Là.
Ouais, c'est ça. Tu peux pas être Charlie, mais... Et de la même façon, tu peux pas être Mahsa, mais...
Ben, c'est ça.
Alors, exactement. Moi, je trouve ça assez assez probant. Écoute, ce qui est assez intéressant quand même, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Un organisme qui, moi, avait perdu énormément de crédibilité à mes yeux, Amnesty International, mm-hmm. qui était vraiment dans toutes sortes de dossiers qui avaient strictement rien à voir avec leur mandat. Quand même, dans les jours qui ont suivi, ils ont dénoncé fortement ce qui est arrivé à Mahsa Amini. Donc, il faut quand même reconnaître, mais tu sais, la fédération...
Ouais, Sophie, entre toi et moi, là, je veux dire, c'est pas l'exploit du siècle que l'Amnesty International réagisse par rapport à cette question-là. Ce serait bien le bout du bout. C'est comme si tu me disais que Greenpeace a réagi quand il y a eu l'explosion à Tchernobyl. Là.
Oui, mais c'est parce que... Oui, mais Guy, la raison pour laquelle je te dis ça, c'est que l'année dernière, à Cube Radio, j'ai fait une entrevue avec la directrice d'Amnesty International au Québec, et on a eu toute une discussion à propos de la loi 21 2021 à propos mm-hmm. du voile, et je m'attendais pas du tout à ce que cette femme-là, qui manifestement avait très 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 peur des amalgames et de tout, bon, tout le petit discours habituel, que cet organisme-là qui a été un petit peu qui a dévié de son mandat original, qui mm-hmm. revienne justement à son mandat original en défendant les droits de la personne. C'est plutôt dans ce sens-là, là. C'est pas... Je les applaudis pas.
J'espère, là. En fait, je te blâme pas de rien de réagir demain, mais ce que je veux dire, c'est que si même les ONG qui sont à la base, ouais, que c'est ça leur ADN, réagissent plus quand des femmes se font tuer parce qu'on leur voit une mèche de cheveux, puis c'est quoi ça, la police des mœurs, puis de la moralité, puis de... Écoute, tu sais, il va falloir à un moment donné qu'on choisisse, là. T'sais, tu peux pas... Tu sais, je regardais Rima El-Khoury dans son papier, mais c'est, elle finit justement en disant, ah, ben oui, mais tu sais, c'est pas parce que je fais un article comme ça que je peux pas apporter le moindre bémol par rapport à la loi 21. Mon œil, le moindre bémol. Tu fais pas le moindre bémol. Tu fais tout... Tu traites de raciste les gens qui disent, qui défendent la neutralité de l'État. C'est pas un moindre bémol, ça. C'est carrément en faire la promotion. Puis, à un moment donné, ben, c'est ça qui arrive, c'est que on extrait totalement la portée sociopolitique de ce geste-là. Et là, on mélange tout. On mélange l'islam et l'islamisme. Mais l'islamisme, là, c'est un mouvement politique qui instrumentalise la religion pour soumettre les femmes, pour les traiter comme des animaux. Puis c'est pas la seule place en Iran. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ouais. Même des pays, des fois, qu'on soupçonne pas en passant. Ouais. Tu sais, tu vois, quand tu sors des grandes villes, là, moi, j'étais allé en Égypte à un moment donné à Siwa, là, dans le désert. C'était à peu près 15 heures d'autobus. Mm-hmm. Ben, j'ai vu un espèce de 4x4 rempli de femmes. Il est battait à coups de bâton, là, comme à coups de bambou, là, des femmes qui étaient voilées, mais même le visage. Là, c'est pas juste les talibans et les Iraniens qui font ça. Là.
Mm-hmm. Oui, et ce qui est important aussi de mentionner, c'est que dans la foulée de tout ce mouvement-là en soutien à Mahsa Amini, ben, y a des gens qui ont dit « Ouais, mais il faut relativiser le voile, parce que ça fait partie de la culture de l'Iran. » Et là, il y a eu un fort ressac, vraiment un gros bac clash de gens qui ont dit ça n'a rien à voir avec la culture iranienne. Et il y a tout un mouvement sur les médias sociaux où les gens mettent des photos de femmes iraniennes vivant les cheveux au vent. Mm-hmm. Avant l'arrivée, donc
avant 79,
exactement, ben oui. Exactement avant l'arrivée des mollahs au pouvoir. Donc c'est important et c'est plein de femmes qui se promènent dans les rues de Téhéran en jupe courte, les cheveux au vent, les avec des
en bikini
sur les plages.
De ces photos là.
Alors
est-ce que la lapidation fait aussi partie de la culture des femmes iraniennes? Je veux dire, ça va jusqu'où cette logique là? Je veux dire, c'est faut se poser la question là. Les femmes présentement là qui manifestent là, tu sais justement là, tu sais, Rima El-Khoury dans son article, tu sais, elle parlait de ça, puis elle disait, ces femmes-là exigent d'abord et avant tout la liberté de le mettre ou de l'enlever. Excuse-moi, mais ce qu'elle crie là, c'est non au foulard, non au turban, oui à l'égalité. C'est ça qu'elles disent. Après
exactement.
Ça, oui, forcément, des femmes peuvent le porter. On dit pas qu'il n'existe pas d'individus qui le portent. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a certaines personnes qui disent le porter librement, aussi d'abord et avant tout à cause de toutes les questions de pression sociale, parce que tu veux évidemment faire partie de ton groupe, de ta communauté, tu veux pas te faire gosser sans arrêt. C'est compliqué l'histoire du choix, vraiment du pur consentement, parce qu'à un moment donné, il y a des choses aussi qui se font de cette manière-là. Parce que si des femmes étaient si libres de le porter, il faudrait quand même que quelqu'un m'explique à un moment donné pourquoi... tu sais, par exemple, moi, je suis allé avec ma blonde en Turquie.
Ouais.
Ben, tu sais, je veux dire, c'est une blanche aux cheveux blonds, là. Tu sais, puis à un moment donné, on était Ankara, pourtant, là, tu sais, c'est quand même la capitale. Mm-hmm. Mais il y a quelqu'un qui est venu à voir et qui a dit, va t'habiller, là.
Ah, ben, moi, ça m'est arrivé en Jordanie quand j'étais jeune, j'étais adolescente. Mon père était en poste à Beyrouth, à l'ambassade canadienne. Et on est allé en Jordanie et j'avais fait l'erreur, bon, j'étais jeune, de me promener en short et en t-shirt et on a commencé à se faire lancer des pierres.
Mm-hmm. Absolument. Je me souviens d'une fille qui avait fait la course Destination Monde au Yémen, la même chose. Tu sais, puis même pas juste ailleurs, là. Tu sais, on parle de ça, puis les gens font toujours ouais, mais dans les lointaines contrées. Mais souviens-toi, là, quand il y avait eu l'histoire de la police communautaire à Longueuil qui était allée dans une mosquée.
Tellement.
Te souviens-tu de ça?
Avec Fadi Daguerre.
Un an et demi, deux ans, à peu
oui,
près.
Oui, oui.
Ben, souviens-toi, les policières, là, qui devaient porter un voile pour pas offenser ces messieurs. La prochaine affaire, c'était quoi? C'était de sortir des policiers hommes homosexuels pour pas les choquer non plus?
Oui, puis oui, souviens-toi, tu as tout à fait raison de rappeler ça. Et rappelle-toi aussi que dans le texte, on laissait entendre que celle qui avait refusé de porter le voile pour cette rencontre, on laissait entendre entre les lignes qu'elles étaient intolérantes. D'ailleurs, parlant de ça, je vais faire un lien. Il y a une journaliste américaine que j'adore, Christiane Amanpour. Elle devait faire une entrevue parce que le président iranien est en ce moment à New York pour une rencontre de l'ONU. Et donc, elle devait faire une entrevue avec lui. Elle attend. Finalement, il y a quelqu'un dans l'entourage du président iranien qui veut la voir en lui disant, écoutez, pour faire l'entrevue avec le président iranien, vous devez porter le voile. Elle a dit, no way, José. Ben, l'entrevue a été annulée. Ben, moi, je dis bravo, Madame Amanpour. Bravo!
Qui est une Iranienne, elle, justement, aussi, ben, d'origine, mais maintenant, elle vit aux États-Unis, puis qui a carrément répondu. On vit à New York ici.
Et là?
Ça n'existe pas à New York, cette tradition-là. Alors, j'ai pas à me soumettre. Mais sais-tu ce qui est drôle dans ce que tu racontes, Sophie, et ce que je trouve assez extraordinaire? C'est qu'imagine-toi le contraire. Imagine-toi Justin Trudeau, qui va dans un pays musulman, je sais pas, ça peut être en Inde, au Pakistan, ou quoi que ce soit, puis il y a une journaliste qui veut l'interviewer, puis il dit est-ce que vous enlèveriez votre voile, ou peu importe la forme de voile qu'elle porterait, là, mettons le hijab, parce que c'est contre mes convictions religieuses. Imagine-toi le tollé que ça créerait.
Ben non, c'est sûr, mais à l'inverse, on le fait. Et rappelle-toi, à l'inverse, là, je viens de rendre hommage à Christiane Amanpour, qui a dit justement, ben c'est ça, on est à New York, c'est pas comme ça que ça marche à New York, ben... contrastons ça, mettons ça en parallèle avec la première ministre de l'Alberta à l'époque, il y a quelques années, qui avait fait une vidéo. En fait, elle faisait une vidéo chaque année pour souhaiter bon ramadan aux citoyens musulmans de l'Alberta. Et elle se voilait. Mais je veux dire, tu peux très bien. Je veux dire, quand elle va souhaiter bonne fête aux gens qui sont sikhs, elle va se mettre un turban sur la tête. Quand elle va souhaiter bonne fête aux partisans de Donald Trump, elle va se mettre une casquette Make America Great Again.
En fait, c'est tout ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, puis même dans des décideurs, qui sont carrément incultes par rapport à la symbolique particulièrement du voile islamique et qui ne comprennent pas que c'est d'abord et avant tout un symbole de soumission et d'humiliation de la femme. Et tant qu'on ne reconnaîtra pas ça, je suis désolé, mais c'est peut-être bien cute, mais ce n'est pas qu'un vêtement et qu'une mode. Si on exclut totalement cette dimension-là, ben, on va juste parler d'un vêtement, alors que la réalité, ce n'est pas qu'un vêtement. Moi, quand j'entends des gens dire « on ne dira pas aux femmes comment s'habiller », mais c'est parce qu'il y a beaucoup de vêtements qu'on pourrait dire, écoute, on laissera pas les gens porter ce symbole-là sur eux parce que ça porte un message.
Ah oui.
Et après, c'est une question de choix. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est pas tout le monde qui le voit comme ça, mais il y a bien des gens qui le voient pas comme ça parce qu'ils sont pas en toute connaissance de cause. Je dis pas que c'est tout le monde, mais il y en a beaucoup qui trouvent ça bien de fun puis bien cute, mais qui réalisent pas que pendant ce temps-là, il y a des femmes qui sont massacrées ailleurs dans le monde.
Absolument. Très important de le rappeler, puis je veux souligner ton courage quand même, parce que parler de ces questions-là aujourd'hui... en tout cas, on a juste à penser à Salman Rushdie, puis on a des petits frissons dans le dos. Merci beaucoup, Guy Nantel.
Ça marche, bonne journée.
Sophie Durocher.
Aussi agile qu'une ballerine, elle danse avec l'information.
J'ai fait beaucoup de jaloux cette semaine à Cube Radio parce que j'ai reçu, oui, le dernier livre de José Di Stasio, mes carnets de saison automne-hiver. Il y avait plein de collègues qui avaient envie de me le voler. Ben, je vous promets, je vais vous le prêter, mais je vais le garder quand même pour moi. Et ils vont être jaloux aussi, mes collègues, parce que c'est moi qui fais une entrevue avec José Di Stasio. Bonjour, José.
Bonjour Sophie, ravie de te retrouver.
Ben écoute, c'est toujours un plaisir pour moi aussi, José. Et vraiment, tu m'épates parce que moi, je me dis comment tu fais pour te renouveler? C'est-à-dire que tu nous arrives avec une autre façon de préparer le poulet, une autre façon de préparer le saumon, une autre façon de préparer des tartes. Où tu vas chercher cette imagination-là pour arriver avec des choses nouvelles de ce qu'on pensait être des classiques?
Mais en fait, ce sont des classiques, mais qui sont déclinés. Tu sais, c'est ça. Je pense que c'est quelque chose qui nous intéresse, en tout cas qui m'intéresse et qui semble intéresser aussi, parce que les classiques, on a envie de retrouver notre poulet rôti, notre tarte aux pommes, tous ces classiques de saison, on veut les retrouver. Mais avec, des fois, juste quelquefois, c'est une astuce de préparation, d'autres fois, c'est une astuce d'ajout. Mais en fait, c'est un bagage qui vient, Sophie, qui vient des rencontres, qui vient vraiment, tu sais, il y a des choses que je replonge même. Je suis replongée, j'ai été chercher une tarte tatin que j'avais faite, qu'on avait faite à l'émission avec Francine Ruel. Mais tu sais, ça doit faire 10 ans de ça, là, tu sais. Mais là, je me disais, la tarte tatin, tu sais, j'avais comme envie de la retrouver. Je me rappelais que ça fonctionnait bien. On l'a refaite en photo, donc ça veut dire retester avec, tu sais, combien des temps de cuisson et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a un petit peu partout, plus les lectures. Mais tu sais, quand ça t'intéresse, que ça soit une image qui t'inspire ou que ça soit quelqu'un où t'es allé manger chez ton cousin, il t'a fait ça. ça vient d'un peu partout, en fait. Puis aussi d'une espèce de compulsion de lecture, juste pour voir la petite astuce en bas du texte, là. T'sais, juste encore plus intéressé par l'astuce que par la recette.
En fait. Oui, c'est ça. Je te connais assez pour savoir qu'en effet, t'aimes ça, les petites astuces. Puis on a tous des astuces d'Istasio qui sont devenues comme des classiques. Moi, c'est ta recette de gâteau à l'orange où tu mets des oranges, tu les fais bouillir, puis après, tu passes les oranges dans le broyeur. Je me posais une autre question en lisant ton livre, José. Je me dis, tout va tellement vite aujourd'hui. Puis la grosse mode, c'est les boîtes de repas à préparer à la maison. Il y a Good Food, il y a HelloFresh, bon, il y a plein de compagnies. Comment tu fais pour convaincre les gens que ça vaut la peine d'aller faire vous-même le marché, d'aller faire vous-même l'épicerie, de découper vous-même vos petits légumes? Tu les convaincs comment, José?
En fait, je pense que la télévision y a été, tu sais, à la base, parce que c'était un peu, comment je dirais, donc, il y a 20 ans quand l'émission a commencé et quand les émissions ont commencé, j'étais pas la seule. Le mouvement, tout ce mouvement-là, j'inclus tous mes collègues et magazines et livres, parce qu'il y a 20 ans, il y avait peut-être 3 livres qui étaient édités par année, il y a 22, 23 ans, mais maintenant, c'est fou. Mais je pense que c'est une invitation, je pense que combien de fois j'ai entendu, j'avais arrêté de cuisiner, mais ça m'a donné envie de recommencer. Je sais pas, pour une raison ou pour une autre, que ce soit pour la gestuelle, pour le petit côté, pour les invités qui étaient. Il y avait un petit peu de tout là-dedans, mais il y a eu un mouvement depuis 20 ans, les gens ont commencé. Après ça, les boîtes sont arrivées, il y a quelques années aussi, les boîtes sont arrivées. Mais il y a certaines personnes qui vont être intéressées, même aux livres de recettes, aux émissions de cuisine, et qui vont pas pour autant cuisiner tant que ça. Et ça, c'est pas proportionnel. C'est pas le nombre de personnes qui vont écouter les émissions, qui vont acheter les livres ou qui vont consommer ce type de choses-là, qui vont nécessairement... Bien sûr, la majorité, c'est parce qu'ils sont intéressés, mais j'entends très souvent, c'est presque par procuration de regarder une émission de cuisine. On regarde, on salive, ça nous donne envie et tout. Mais les boîtes ont quelque chose de pas si mal que ça, parce qu'il y a des gens qui ne cuisineraient pas, qui connaîtraient même pas certains produits et qui deviennent curieux parce qu'ils ont apprivoisé ça par une recette simple qui venait d'une boîte de
tout à fait.
Ou de l'autre.
Ben, moi, j'en fais partie, par exemple. Moi, je suis abonnée à une compagnie et puis à un moment donné, ils m'ont mis du kimchi, mais moi, je me lève pas le matin en me disant, hey, bobonne, on s'en va faire on va faire cuire du kimchi. Alors que là, tu découvres un ingrédient, puis après, tu peux l'utiliser par toi-même. Écoute, moi, je regarde ton livre, puis j'ai l'impression de feuilleter un Playboy. J'ai l'impression d'être un garçon adolescent, puis qui feuillette son Playboy, parce que les photos sont tellement belles que, écoute, c'est jouissif. C'est un petit peu comme un Playboy, parce que c'est pas parce que tu regardes la centerfold que t'as nécessairement envie d'aller faire la brouette thaïlandaise. Ben là, je peux regarder ta pizza aux artichauts puis aux épinards, puis ça veut pas dire que je vais la faire un jour, là.
Non, mais tu vas avoir du plaisir à savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, tu vas la lire, tu vas t'arrêter sur la page et tout ça, là, tu sais.
C'est cochon.
Ça, mais c'est même pas, et ça, c'est presque sage. Ça, c'est une recette qui est presque sage. C'est pas parmi les cochonnes, celle-là. Mais je comprends très bien, mais je vais te dire, tu vas être sûrement la seule à comparer le livre au Playboy et le centerfold et la brouette thaïlandaise et islandaise avec mes recettes. Ça, tu vas être la seule.
C'est pour ça que tu m'aimes. Oui. Écoute, il y a une question super importante aussi qu'on se pose. En ce moment, on se le cachera pas, José, il y a un gros gros, gros, gros problème. Les Québécois sont confrontés à une inflation à pu finir. Le coût de la vie, mais le coût de l'alimentation, le coût des aliments a augmenté, je pense, de 10 % au cours des dernières semaines. Comment on fait pour faire ton livre de recettes et en essayant quand même d'économiser? Est-ce que tu avais ça en tête aussi en faisant le livre?
Je pense que j'ai ça en tête depuis le tout début. J'ai vraiment pas une cuisine, je dirais, luxe. C'est vraiment pas top luxe. Je veux dire, je vais pas utiliser des ingrédients qui sont si rarissimes que ça ou qui coûtent des fortunes. Et souvent, si jamais il y a un ingrédient qui, lui, est un petit peu plus rare, il va avoir sûrement un substitut ou quelque chose qu'on peut utiliser pour avoir le même plaisir, mais avec une variante. Alors, mais je pense que dans, et je parle du livre, mais je parle d'un peu partout, je parle de la situation principalement, il va falloir aussi qu'on change un peu nos, pour certains, les habitudes alimentaires qu'on a et peut-être apprivoiser la légumineuse. Si je parle de cuire une légumineuse, l'espèce de satisfaction de dire je cuis une légumineuse, j'en mets dans ma soupe, ça me fait un repas consistant et substantiel. La même chose avec, tu sais, il y a des ingrédients qu'on peut aller chercher et qu'on multiplie. Tout ce qui est riz brun, au lieu d'utiliser un riz blanc vide et un petit riz brun qui va faire une base et tout. Les légumes racines, là, on parle d'un livre d'automne-hiver. J'avais fait été-printemps. Là, c'est automne-hiver. Donc, les légumes racines, le panais, ça fait pas partie des trucs qui sont si luxueux que ça. Et pourtant, t'as un parfum.
Oh, j'adore.
Qui à redécouvrir. Tu sais, il y a trois recettes avec du panais, c'était comme ma racine l'année dernière, on va dire. C'était comme le lactate, les pommes de terre râpées avec le panais qui rajoute un petit parfum dans les pommes de terre râpées quand on fait nos galettes.
On adore ça. Alors, panais et Playboy, je pensais jamais parler de ces deux choses-là avec José Distasio, mais c'est maintenant chose faite. Ton livre, Mes carnets de saison, est maintenant en librairie automne-hiver. Merci beaucoup, José. Grazie mille.
Au plaisir, Sophie.
Ciao.
OK, grazie a te.
Grazie a te. Ben oui, elle s'appelle pas José Distasio pour rien. Faut y parler en italien. Merci, grazie mille et à Marianne Bessette également à la recherche. Un grande grazie également à Charlie Marchand à la mise en onde et à la réalisation. J'en perds mon latin. Et merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve tout bientôt.
Cube Radio.